à bout de souffle. Aujourd'hui, une émission sur la pensée contemporaine. Nous vous livrons un nouvel entretien avec Éric Fassin, sociologue et américaniste à l'École normale supérieure. C'est lors des rencontres de l'histoire, en octobre dernier, à Blois, que nous avons, une nouvelle fois, rencontré Éric Fassin. Éric Fassin, bonjour.
Bonjour.
Alors, Éric Fassin, vous êtes donc sociologue et américaniste à l'École normale supérieure. Alors, vos travaux portent sur les questions minoritaires, incluant les questions raciales, de sexualité et de genre. Il s'agit pour vous de comprendre la norme à partir des questions minoritaires pour, en quelque sorte, en révéler sa construction. Il s'agit donc d'une déconstruction de la norme, aussi bien en tant qu'instance régulatrice qu'en tant que notion. Alors, lors de notre première rencontre, l'an dernier, ici même au Rendez-vous de l'Histoire à Blois, nous nous étions appuyés sur l'œuvre de Michel Foucault et sur vos publications pour tenter de comprendre ou de répondre aux questions contemporaines de genre et de sexualité. L'émancipation, la fabrication du sujet, la critique de l'ordre symbolique érigé en vérité éternelle, la déconstruction de l'idée que le sexe précède le genre et que si le genre est socialement construit, il le serait à partir d'une différence des sexes originaires et naturels. Sur ce point, nous étions appuyés sur les travaux de Judith Butler, elle-même s'appuyant sur l'œuvre de Michel Foucault, mettant au jour une performativité du genre. Enfin, nous nous étions arrêtés sur la question du désir pris dans l'échange marchand, en essayant de distinguer les pratiques qui relevaient d'un choix assumé de celles qui relevaient de l'oppression. Alors, c'est à partir de ce point que je vous propose, pour l'entretien qui va suivre, de convoquer la pensée de Gilles Deleuze. Non pas nécessairement pour revenir sur cette question du désir pris dans l'échange marchand, mais convoquer Deleuze pour que sa pensée vienne hanter notre discussion. Aussi, nous le ferons parler, comme on fait parler un fantôme, avec deux archives prises dans l'abécédaire, réalisées par Pierre-André Boutan. Alors, il s'agira du concept de désir, développé dans l'Anti-Oedipe par Deleuze et Guattari, archive pour rebondir sur la marche des trans et des intersexes qui a lieu à Paris en octobre, et puis pour rebondir également sur la première édition à Paris du Festival de cinéma pornographique proposant des productions qui sortent des formats classiques dans ce domaine. Deleuze encore, avec une deuxième archive sur le devenir minoritaire et l'homme comme étalon majoritaire. Avec cette archive, nous aborderons la figure de Nicolas Sarkozy, la place dans les grands médias accordée au couple Sarkozy-Bruni et ce que révèle également la campagne électorale aux États-Unis quant à ces questions de l'étalon majoritaire et des devenirs minoritaires. Enfin, j'aimerais que nous nous arrêtions sur les enjeux du fichier Edwige et, si nous avons le temps, sur l'annulation en avril dernier d'un mariage à Lille pour motif de tromperie sur les qualités essentielles de l'épouse. Alors, si vous le voulez bien, au moins que vous ayez là quelque chose à rajouter, je vous propose d'écouter la première archive de Gilles Deleuze.
Écoutez, en tout cas, c'est un vaste programme.
Bien, alors, c'est parti.
Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose. Vous désirez toujours un ensemble. C'est pas compliqué. Et notre question, c'était, quelle est la nature des rapports entre des éléments pour qu'il y ait désir, pour qu'il devienne désirable. Je veux dire, je ne désire pas une femme, là j'ai honte de dire des choses comme ça, c'est Proust l'a dit, et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage qu'au besoin je ne connais pas et que je pressens, et, si, et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, je serai. Mon désir n'aura pas abouti. Mon désir restera insatisfait. Alors là, je prends un ensemble à deux termes, femme-paysage, mais c'est tout à fait autre chose. Quand une femme dit « je désire », une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier. Mais c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis. Ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire bien plus. Je désire pas un ensemble non plus. Je désire dans un ensemble. Alors là, on pourrait revenir, c'est autant de fait, à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alcool, boire. Mais moi, ça n'a jamais voulu dire je désire boire, et puis voilà. Ça veut dire ou bien. Je désire boire tout seul en travaillant, ou bien boire tout seul en me reposant, ou bien aller retrouver les copains pour boire, aller dans tel petit café. En d'autres termes, il n'y a pas de désir qui ne coule, je dis bien qui ne coule dans un agencement. Si bien que le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche, le terme abstrait qui correspond à désir, je dirais, c'est constructivisme. Désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble. L'ensemble d'une jupe, d'un rayon de soleil,
d'une femme,
d'une rue, voilà. L'agencement d'une femme, d'un paysage,
d'une couleur.
Voilà, voilà ce que c'est un désir. C'est donc construire un agencement, c'est construire une région. C'est construire, c'est vraiment agencer. Mais un désir, c'est ça, c'est construire. Construire, or, chacun de nous passe son temps à construire chaque fois qu'il dit. Pour moi, chaque fois que quelqu'un dit « je désire ceci », ça veut dire qu'il est en train de construire un agencement. Et c'est rien d'autre. Le désir, ce n'est rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire, nous, dans l'anti-Édipe ? Moi, je crois qu'il y a trois points. Il y a trois points qui s'opposent directement à la psychanalyse. Quoi. Ces trois points, c'est... Et là, pour mon compte, et je crois Félix non plus, Félix Guattari non plus, on n'a absolument rien à changer à ces trois points. C'est que... On est persuadé, ou on croit en tout cas, que l'inconscient n'est pas un théâtre. C'est pas un endroit où il y a Édipe et Hamlet qui jouent éternellement leur scène. Hein. C'est pas un théâtre, c'est une usine, c'est de la production. L'inconscient, il produit. Il produit, il ne cesse pas de produire. Donc, ça marche comme une usine. C'est le contraire même de la vision psychanalytique de l'inconscient comme théâtre, où s'agit toujours à Hamlet ou à Édipe. À l'infini. Notre deuxième thème, c'est que le délire, qui est très lié au désir, quoi, désir c'est délirer d'une certaine manière, mais si vous regardez un délire quel qu'il soit, si vous regardez de près, si vous entendez un délire quel qu'il soit, il n'a rien à voir sur la psychanalyse en a retenu, c'est-à-dire on ne délire pas sur son père et sa mère. Et on délire sur tout à fait autre chose, et c'est là qu'est le secret du délire, on délire sur le monde entier. C'est-à-dire on délire sur l'histoire, la géographie, les tribus, les déserts, les peuples,
le climat,
les races, les climats. C'est là-dessus qu'on délire. Le monde du délire, c'est « je suis une bête, un nègre », le Rimbaud. C'est « où sont mes tribus ? Comment disposer mes tribus ?» survivre dans le désert, etc. Le désert est, le délire est géographico-politique. Et la psychanalyse, chaque fois, elle ramène ça à des déterminations familiales. Donc, je peux dire, là, je me sens, même après tant d'années de distance, après l'anti-Édipe, je dis, la psychanalyse n'a jamais rien compris à un phénomène de délire. Et puis, le troisième point, c'est que ça revient à ça, le désir. C'est que le désir, il s'établit toujours, il construit des agencements, il s'établit dans un agencement, il met toujours en jeu plusieurs facteurs. Et la psychanalyse ne cesse de nous ramener à un seul facteur, et toujours le même. Tantôt le père, tantôt la mère, tantôt je ne sais pas quel, tantôt le phallus, etc. Elle a tout ignorant de ce qui est multiple, elle a tout ignorant du constructivisme, c'est-à-dire des agencements. Dans un agencement, c'est toujours un collectif. Collectif, constructivisme, etc. C'est ça le désir. À quelle est ma position dans la meute ? Est-ce que je suis extérieur à la meute, à côté de la meute, dans la meute, au centre de la meute ? Tout ça, c'est des phénomènes de désir. C'est ça le désir. Si je me mets à délirer, ben, c'est pas pour délirer sur mon enfance, là aussi, sur ma petite affaire privée. On délire, le délire est cosmique. On délire sur la fin du monde, on délire sur les particules, sur les électrons, et pas sur papa-maman.
Donc voilà cette archive sur le désir et le délire pris donc dans l'ABCDR. Peut-être comme ça une petite réaction à chaud. Moi, ce qui m'intéressait dans cette archive, c'était la question du constructivisme par rapport au désir et le délire comme aussi quelque chose de porté sur le collectif.
Alors, je pense qu'effectivement, ce qui m'intéresse en tout cas en tant que sociologue. C'est-à-dire, je ne parle pas du point de vue de la psychanalyse, je ne parle pas du point de vue de la philosophie, je parle du point de vue des sciences sociales, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre des mécanismes sociaux à partir d'outils qui sont ceux des sciences sociales. Mais évidemment, comme tout le monde, j'emprunte mes outils là où je peux et mes références, et donc aussi du côté de la philosophie, de la psychanalyse, etc. Donc ce qui m'intéresse, c'est que, effectivement, ce que rejette Deleuze ici et ce que rejette Deleuze et Guattari, c'est une sorte de privatisation de l'inconscient. L'inconscient serait privé, replié sur l'individu. Ce serait ce petit théâtre avec très peu de personnages, la tragédie grecque. Et en fait, la tragédie grecque, là, elle est retournée en quelque sorte, puisque ce qui est proposé, c'est une vision cosmique. Cette vision cosmique, effectivement, le terme de cosmique n'appartient pas beaucoup au vocabulaire des sociologues. En revanche, c'est l'idée qu'il y a tout un monde derrière. Autrement dit, que le désir n'est pas quelque chose qui se joue simplement entre moi et moi, mais entre moi et le monde. Alors le monde, évidemment, c'est un ensemble de scènes sociales. Donc je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Et j'ajouterais, par rapport à ce terme de constructivisme, ce qui me paraît intéressant, c'est que ce n'est pas le constructionnisme. Le constructionnisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est construit. Le constructivisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça construit quelque chose. Et il me semble que de ce point de vue-là, c'est intéressant à penser pour les sciences sociales, puisque les sciences sociales, souvent, aujourd'hui, ont intégré l'idée que le constructionnisme est nécessaire à la pensée de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire. Autrement dit, la réalité est construite. Ce qui est intéressant, c'est de voir, de retourner la proposition et de voir ce que le désir construit. C'est-à-dire, pas simplement comment il est fait, mais ce qu'il fait. Et je crois que, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui, en tout cas pour moi, rejoint quelque chose que, comme beaucoup d'autres, j'emprunte à Foucault. Et c'est un point d'ailleurs que Deleuze lui-même a commenté, c'est la notion de pouvoir chez Foucault, c'est-à-dire quelque chose qui produit. Et je crois que l'idée qu'on va pouvoir penser, pas simplement la résultante, mais aussi ce dispositif, cet agencement, cette construction, mais cette construction comme processus actif et pas simplement comme résultat, il me semble que ça, c'est une des incitations à réfléchir en des termes un peu différents qu'on peut trouver dans cet extrait et qu'on peut trouver plus généralement chez des penseurs des années 70 comme Gilles Deleuze ou comme Michel Foucault.
Ce qui veut dire aussi que du coup, on est obligé de penser le mouvement et que la norme, pour le coup, elle est également, elle, prise en mouvement perpétuel, en fonction d'époque historique, en fonction aussi de la construction du désir. C'est-à-dire que, est-ce que la norme varie en fonction des constructions qui se mettent en place ?
Alors effectivement, c'est en cela, me semble-t-il, que c'est une perspective importante pour les sciences sociales, c'est que, précisément parce que les sciences sociales sont volontiers constructionnistes, et je me reconnais bien sûr dans cette perspective, elles vont pouvoir prendre en compte le fait que la réalité est construite, mais là, ce qui nous est donné à penser, c'est qu'elle n'est pas construite une fois pour toutes, puisqu'elle est en train de se construire. Et en ce sens, ce qui m'intéresse ici, c'est que ça peut rejoindre une perspective historique, une historicité, y compris du désir. C'est-à-dire qu'on sait bien que beaucoup de choses changent. Nous sommes ici au rendez-vous de l'histoire de Blois. Nous savons bien que l'histoire fait métier de rappeler que la réalité change. La question, c'est de savoir si cette historicité, elle traverse aussi ce que d'ordinaire nous percevons comme inscrit dans la nature des choses, et en particulier le désir. Historiciser le désir, c'est voir simultanément comment il est construit et comment il construit en retour. Autrement dit, ça oblige à raconter ou ça invite à raconter une histoire. C'est-à-dire comment ce qui est en jeu aujourd'hui, dans le désir, c'est le monde, mais comment ce qui est en jeu dans le monde, c'est le désir. C'est-à-dire, ce sont ces transformations qui marchent dans les deux sens, le fait que les évolutions historiques changent la nature du désir en même temps que le désir transforme les réalités historiques. Donc c'est ce va-et-vient entre constructionnisme et constructivisme qui me paraît constituer un dispositif conceptuel utile pour les sciences sociales et pour essayer de penser le monde de manière historique.
Alors j'avais aussi choisi donc, cet archive pour rebondir sur Existrance, qui est la marche des trans et des intersexes à Paris. Et cette marche a un certain nombre de revendications. Je vais les dire là, pour que les pays adaptent leur législation à la question de la transidentité, pour que les droits parentaux puissent être conservés pour les transsexuels, prise en compte des risques dans les espaces non mixtes pour les transsexuels, notamment les établissements carcérales, la question du droit à l'asile politique. C'est-à-dire que quand on est dans un pays et qu'on peut être victime de transphobie et pouvoir demander l'asile politique. Et j'avais donc choisi cette archive par rapport également au côté des résistances du côté de la psychanalyse, puisque là, Deleuze fait une charge quand même assez violente envers la psychanalyse, puisque le transsexualisme, il est encore dans les manuels de psychiatrie, et que pour pouvoir changer de sexe, il faut, de manière obligatoire, passer devant un psy. Et donc cette question de la marche des trans et des intersexes, c'est cette question de pouvoir s'émanciper finalement du regard de la médecine, et ce qui pose la question de l'usage par rapport aux soins, c'est-à-dire faire en sorte que la question de la transsexualité ne soit pas un problème posé par les médecins ou les psychiatres, mais plutôt qu'ils soient interpellés à partir des transsexuels, à partir de la pratique, à partir de ceux qui vivent au quotidien ces questions.
Alors je pense qu'effectivement, c'est important, et la question trans me paraît aujourd'hui un des lieux politiques significatifs. Pourquoi ? Parce que on a vu dans les années 70 une dépsychiatrisation de l'homosexualité, et au contraire, une psychiatrisation de ce qu'on a appelé le transsexualisme. C'est-à-dire, non pas la transsexualité, le fait de changer de sexe ou de vouloir changer de sexe, mais le transsexualisme conçu comme une pathologie. Autrement dit, au moment même où on commençait à changer le regard psy sur l'homosexualité, parce que le regard de la société sur l'homosexualité était en train de changer, préparant le terrain pour des questions d'actualité sur la possibilité pour des couples de même sexe de s'unir et d'être reconnus en tant que tels, y compris de pouvoir adopter ou de pouvoir recourir à la procréation médicalement assistée. Bref, cette transformation de l'homosexualité dans la société, ce que j'ai même proposé d'appeler l'inversion de la question homosexuelle, c'est-à-dire l'idée qu'au lieu qu'on se dise que l'homosexualité pose problème, le fait que l'homosexualité pose des questions à la société dans laquelle nous sommes, eh bien, au même moment, on voyait que ce qui venait prendre la place, en quelque sorte, de la question homosexuelle, c'était la question trans. La pathologisation était déplacée. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en pratique, comme vous le rappeliez, changer de sexe est indispensable si l'on veut, si l'on ne se reconnaît pas dans son sexe, puisque c'est le moyen d'avoir une apparence qui concorde avec son état civil, et donc, par exemple, d'avoir un travail. Pourquoi beaucoup de trans vont-ils être engagés dans la prostitution ? Vont-ils ou vont-elles être engagés dans la prostitution ? Eh bien, entre autres, c'est parce que c'est un des rares métiers, si l'on ose dire, c'est l'un des rares métiers où la question des papiers ne se pose pas de manière aussi urgente. Donc il y a une sorte d'injonction à la prostitution pour beaucoup de trans, c'est-à-dire à défaut de pouvoir avoir un travail plus ordinaire ou d'avoir le choix en tout cas de son travail, beaucoup sont condamnés à cette option. Donc c'est une question très pratique. C'est une injonction au changement de sexe. Mais cette injonction au changement de sexe par l'État, elle est portée ensuite par un discours médical. C'est-à-dire que c'est l'État qui délègue à des instances psychiatriques l'autorité pour juger de la possibilité de changer de sexe. Donc il y a à la fois l'obligation de changer de sexe si on veut avoir des papiers en règle, en quelque sorte. Et d'ailleurs, cette question des papiers se pose d'autant plus que beaucoup de trans sont de nationalité étrangère. Donc l'impossibilité de faire autrement, mais aussi l'obligation d'en passer par le regard psy. Cette obligation, elle confère aux psychiatres qui vont pouvoir signer l'autorisation, en quelque sorte, de changer de sexe, un pouvoir exorbitant. Je crois que dans notre société aujourd'hui, il n'y a probablement quasiment pas d'autres situations sociales où une personne ait autant de pouvoir sur une autre personne. C'est presque un pouvoir de vie ou de mort dans une société où la peine de mort n'existe plus. Donc il me semble qu'il y a là quelque chose qui est un peu une exception dans le rapport démocratique. Dans une société où la question de savoir comment on se définit soi-même est pour une large part remise à chacun, là au contraire, il y a une sorte de pouvoir presque absolu psychiatrique. Donc je crois que la question des revendications trans aujourd'hui est importante parce que, premièrement, elle est très importante dans la vie pratique de beaucoup de trans. Deuxièmement, elle est très importante politiquement parce qu'elle signale une sorte d'exception extrême dans un régime politique qui se dit démocratique. Mais aussi, troisièmement, ça pose une autre question qui est à la fois théorique et politique et qui me paraît importante. C'est que tous les travaux féministes, depuis les années 70, utilisent la catégorie de genre par opposition au sexe. Et la définition qu'on en donne d'ordinaire, en première approche, c'est l'idée que le genre, eh bien, c'est culturel ou c'est social, alors que le sexe, eh bien, ce serait naturel ou biologique. Pour une large part, le féminisme a été amené à déconstruire la naturalité non seulement du genre, mais aussi du sexe. Mais ce qui me paraît révélateur, c'est que lorsqu'il s'agit des trans, on prend conscience du fait que le sexe lui-même est une catégorie d'État. C'est l'État qui nous case dans les cases du sexe. Et c'est l'État qui peut défaire ce qu'il a fait. Donc je crois qu'il y a là un révélateur important pour toute réflexion sur les questions de genre, de sexe et de sexualité, du fait que ces catégories, non seulement ce sont des normes sociales qui ont évolué dans le temps, mais aussi ce sont des catégories d'État. C'est l'État qui, par exemple, va permettre ou non de se marier pour deux personnes du même sexe ou pas, mais évidemment, ça se complique lorsque ces personnes sont transsexuelles ou transgenres. C'est-à-dire, à partir de quand va-t-on dire vous êtes de tel sexe ou de tel autre sexe? On voit bien ici qu'il y a un pouvoir exorbitant d'un côté du psychiatre et de l'autre de l'État.
Au même moment que cette marche des trans et des intersexes, il y a le Porn Film Festival, qui est la première édition d'un festival pornographique à Paris. Festival qui avait été annulé l'année dernière, puisqu'il n'avait pas eu les autorisations de l'État. Ce festival s'annonce comme suit, le rendez-vous incontournable de l'actualité internationale de la pornographie alternative, dans un esprit résolument pro-sexe, ludique et décalé, avec une programmation de films réunissant des documentaires, des courts et des longs-métrages. Aucune des dimensions du sexe à l'écran n'est laissée de côté, qu'il soit explicite ou avant-gardiste, politique ou esthétique, soft ou hard, entre les deux ou tout à la fois. L'équipe du festival a sélectionné la crème de la crème du porno récent, mais aussi des classiques, des films cultes ou, sans oublier, les nouvelles pornographies, la pornographie féminine et les pornographies lesbiennes, gay, bi, trans et queer. Ce qui m'intéresse avec vos travaux, c'est que par rapport à la norme, le problème de la norme avec elle, c'est que l'on recherche toujours davantage les causes d'une transgression à la norme, alors qu'il faudrait davantage chercher les raisons pour lesquelles cette transgression pose problème. C'est-à-dire à quel ordre social la transsexualité, par exemple, ou en tout cas ici, à quel ordre social un tel festival, qui a été donc interdit l'année dernière, pose problème. C'est-à-dire que même les films pornographiques ayant une autre approche esthétique poserait également problème.
Alors, je ne suis pas aussi compétent qu'il le faudrait pour répondre à cette question, mais je vais quand même donner quelques réactions. La première, d'ailleurs, si vous souhaitiez, j'ai un de mes étudiants, Mathieu Trachman, qui finit une thèse sur la pornographie et qui serait beaucoup plus compétent que je ne le suis. Mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que la catégorie même de pornographie, elle ne va pas de soi. Elle ne va pas de soi. Il y avait un juge de la Cour suprême aux États-Unis qui disait « Je ne sais pas la définir, mais quand j'en vois, je sais que c'en est ». Ce qui montre bien un problème de définition, c'est qu'au fond, il n'y a pas besoin de le définir puisqu'on est censé savoir ce que ça veut dire. Et j'avoue que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En revanche, il me semble qu'on peut voir à quel moment notre définition actuelle de la pornographie s'est formée. Elle s'est formée dans les années 70, c'est-à-dire à partir du moment où la loi a relégué la pornographie dans une sorte de semi-clandestinité du fait d'une taxe qui, en gros, excluait la pornographie du cinéma normal. L'idée qu'il y avait d'un côté le cinéma pornographique et de l'autre le cinéma normal, eh bien, c'est quelque chose qui a une histoire assez récente. Et on voit bien, si on repense à un film comme L'Empire des Sens, qu'on est dans une sorte de préhistoire par rapport à cette catégorisation avec d'un côté la pornographie, de l'autre le vrai cinéma. Il me semble qu'aujourd'hui, cette division, cette partition très claire, elle est remise en cause. Elle est remise en cause de différentes manières. Il y a une manière qu'on voit bien dans les films non pornographiques, où on a vu le retour d'actes sexuels non simulés, avec un certain nombre d'exemples, par exemple dans ce film Les Idiots, qui avait été produit, mais dans d'autres aussi. Deuxièmement, cette séparation entre un cinéma légitime et un cinéma illégitime, elle est remise en cause aussi sur un mode, disons, de distraction, de variété, par le fait que beaucoup d'émissions aujourd'hui à la télévision nous montrent côte à côte des artistes sérieux, des politiques supposés sérieux et telle ou telle vedette de pornographie. Autrement dit, le mélange des genres est devenu en quelque sorte la règle sur un mode de distraction. Mais troisièmement, Il me semble qu'il y a une autre manière aujourd'hui de remettre en cause ce partage et qui renoue sans doute, même si c'est dans des termes différents, avec un héritage des années 70 qui est une conception politique de la pornographie, c'est-à-dire utiliser la pornographie, et il me semble que c'est la signification de ce festival, utiliser la pornographie pour réfléchir aux évidences qui organisent les représentations de la sexualité. Autrement dit, c'est quoi la sexualité ? Si je me souviens bien, dans la liste des catégories de films qui sont montrés dans ce festival, je crois qu'il y a une catégorie sexe non explicite. Je trouve que c'est très remarquable, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas là dans une sorte de surenchère où finalement, ce qui prouverait la pornographie, c'est le toujours plus. Ça peut être aussi l'inverse. Encore une fois, je ne veux pas dire que ce serait la vérité du sexe ni la vérité de cette pornographie politique, mais le simple fait que cette catégorie puisse exister, il me semble que ça interroge l'évidence de ce qu'on appelle pornographie et donc du coup l'évidence de ce qu'on appelle sexualité. Donc il me semble qu'on a peut-être là, je disais que c'est une troisième manière de remettre en cause ce partage, il me semble qu'elle est très différente de celle que j'ai rappelé auparavant, parce que premièrement elle part de la pornographie et non pas du cinéma légitime, et deuxièmement elle ne cherche pas finalement à normaliser la pornographie comme le font ces émissions de télévision qui nous disent détendez-vous, il n'y a pas de problème. Au contraire, là il s'agit de dire il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que la pornographie, ça pose des questions. Donc de ce point de vue-là, il me semble que un tel festival peut avoir véritablement une signification politique.
Alors je vous propose de reconvoquer Gilles Deleuze, de reconvoquer son fantôme pour une archive donc tirée de l'abécédaire.
Et deuxièmement, être de gauche, c'est être par nature, ou c'est plutôt devenir, c'est un problème de devenir, ne pas cesser de devenir minoritaire. C'est-à-dire que la gauche n'est jamais majoritaire en tant que gauche. Et pour une raison très simple, c'est que la majorité, c'est un truc qui suppose, même quand on vote, c'est pas simplement la plus grande quantité qui vote pour telle chose. La majorité, ça suppose un étalon. En Occident, l'étalon que suppose toute majorité, c'est homme, adulte, mâle, citoyen des villes. Ezra Pound, Joyce ont dit des trucs comme ça, c'était parfait, oui. C'est ça l'étalon. Donc, aura la majorité par nature celui qui, à tel moment, ou l'ensemble qui, à tel moment, réalisera cet étalon. C'est-à-dire l'image sensée de l'homme adulte, mâle, citoyen des villes. Si bien que, à la limite, je peux dire la majorité, ça n'est jamais personne. Ça n'est jamais personne, c'est un étalon vide. Simplement, plusieurs personnes, un maximum de personnes se reconnaissent dans cet étalon vide. Mais en soi, l'étalon est vide. L'homme mâle, etc. Alors, les femmes vont compter et vont intervenir dans la majorité ou bien dans des minorités secondaires d'après leur groupement par rapport à cet étalon. Mais à côté de ça, il y a quoi ? Il y a tous les devenirs qui sont des devenirs minoritaires. Je veux dire, les femmes, ce n'est pas un acquis, elles ne sont pas femmes par nature. Les femmes, elles ont à devenir femmes. Du coup, si les femmes ont à devenir femmes, les hommes aussi, ils ont à devenir femmes. On parlait tout à l'heure des devenirs animaux. Les enfants, ils ont à devenir enfants, ils ne sont pas enfants par nature. Voilà. Tous ces devenirs-là, c'est ça les minorités.
Il n'y a que les hommes qui n'ont pas de devenir hommes, c'est dur.
Ah ben non, c'est un étalon majoritaire.
C'est vide.
L'homme mâle adulte, il n'a pas à devenir. Il peut devenir femme, à ce moment-là, il s'engage dans les processus minoritaires. La gauche, c'est l'ensemble des processus de devenir minoritaire. Donc, je peux dire à la lettre, la majorité, c'est personne, la minorité, c'est tout le monde. C'est ça, être de gauche. C'est savoir que la minorité, c'est tout le monde. Et que c'est là que se passent les phénomènes de devenir.
Éric Fassin, la majorité c'est personne, la minorité c'est tout le monde.
Alors je pense que cette phrase est très importante elle pourrait être mal comprise. On pourrait se dire, donc finalement, tout le monde est du bon côté. Et donc, du coup, il n'y a plus de minorité puisque tout le monde en est. Ce serait, je crois, un malentendu. La réalité, c'est plutôt que, effectivement, l'injonction majoritaire, eh bien, personne ne peut jamais y satisfaire. De ce point de vue-là, il me semble que cette formulation d'un étalon auquel nul ne pourrait correspondre me paraît anticiper des formulations qu'on retrouvera chez Judith Butler, c'est-à-dire l'idée que la norme, finalement, c'est ce à quoi on ne peut pas atteindre. J'avais utilisé cette comparaison pour expliquer, pour présenter sa pensée, en disant que c'était une sorte de mythe de Sisyphe. Au fond, on n'arrive jamais à se conformer à l'attente normative, qu'il s'agisse de masculinité, qu'il s'agisse d'hétérosexualité.
C'est-à-dire qu'on la rate toujours, en fait.
Voilà. C'est... Nul n'incarne la norme. Donc, il y a une volonté d'incarner une norme, mais une norme qui n'étant pas incarnée, condamne à cette espèce de permanente déception, à cette permanente insatisfaction. Donc, ça, je crois que ce qui est important, là, c'est qu'effectivement, ça montre que la même société, la même situation sociale peut être interprétée de deux manières différentes. Il ne s'agit pas de dire qui est majoritaire, qui est minoritaire, mais comment vais-je regarder la société ? Ce que propose ici Gilles Deleuze, ça n'est pas de nous dire voilà ce qu'est la société, mais voilà comment on regarde la société quand on est de gauche. Donc ça n'est pas la vérité de la société, c'est une vision politique de la société, donc par exemple de la masculinité, de la féminité, et plus généralement des statuts majoritaires et minoritaires qui est proposé. Donc ça n'est pas la vérité des choses, c'est une vision politique. Autrement dit, c'est une manière de vouloir représenter la société. Et de ce point de vue-là, ça me paraît une pensée très importante et dans laquelle je me reconnais tout à fait aujourd'hui. J'ajouterais toutefois que nous ne vivons plus tout à fait dans le même monde que Gilles Deleuze. En partie, bien sûr, parce qu'entre-temps, il y a eu Gilles Deleuze. Mais quand on voit cette espèce de dévoilement qu'il propose, eh bien, ça repose sur le fait que tout le monde sait bien, au moment où il parle, qu'un homme politique, c'est un homme. Cela va sans dire. Je crois que c'est ça qui va un peu moins de soi aujourd'hui. Pas seulement en France, un peu partout dans le monde, parce qu'il y a des femmes, parce que dans certains cas, on peut faire état de son homosexualité, comme le maire de Paris ou le maire de Berlin. Donc, on s'aperçoit que l'évidence de cet étalon, elle est en quelque sorte troublée. Je crois que c'est cela qu'il faut essayer de penser aujourd'hui. C'est-à-dire pas simplement la norme, l'étalon, mais aussi le fait que l'étalon doute. De ce point de vue, il me semble que si on regarde la politique en France aujourd'hui, on s'aperçoit que, bien entendu, on peut considérer, et à juste titre, que le président de la République, Nicolas Sarkozy, serait une sorte d'éternelle figure de l'étalon, c'est-à-dire c'est la masculinité hétérosexuelle blanche triomphante. En même temps, je crois que nous ne sommes plus tout à fait dans l'univers des années 70. C'est-à-dire que nous le voyons se mettre en scène lui-même, comme homme, dans ses amours hétérosexuels. Autrement dit, il joue le jeu. Bien sûr, ça a toujours été le cas. Simplement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on s'en doute. On le sent. Et que donc, il est dans la position, précisément, que décrit Gilles Deleuze, mais à un moment où Gilles Deleuze, en quelque sorte, n'a pas le référent historique pour penser ce trouble dans la norme. Et je crois qu'il y a là une transformation. Aujourd'hui, quand on voit un homme politique, on ne se dit pas simplement que c'est l'évidence de l'homme politique, mais on se dit, tiens, et d'ailleurs, c'est un homme. Je crois que c'est ça qui change. On le voit bien sûr dans son versant négatif, parce qu'on continue de remarquer que, tiens, une telle est une femme. C'est beaucoup ce qu'on a dit pour Ségolène Royal, et c'est ce qu'on dit pour d'autres encore. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que du coup, on commence à voir aussi que les hommes politiques sont des hommes. Pas simplement sont l'homme étalon, mais des hommes particuliers. Autrement dit, la vision minoritaire s'est en quelque sorte infiltrée dans la représentation, non seulement pour le public qui les regarde, mais on sent que pour chacun, la manière d'incarner la norme a été en quelque sorte troublée. Elle ne va plus de soi.
Vous parlez de mise en scène et il y a une mise en scène du couple Nicolas Sarkozy-Carla Bruni. J'ai le sentiment qu'avec cette mise en scène, on assiste à une forme très étrange de distribution des rôles. C'est-à-dire que, par exemple, Nicolas Sarkozy incarnerait la droite et le dit lui-même, Carla Bruni incarne la gauche. Une manière très étrange de dire la gauche, c'est quelque chose qui appartient aux femmes et l'autorité... C'est moi, Nicolas Sarkozy, et mon couple est à l'image de cette nouvelle distribution des rôles, de sorte que ce n'est plus une affaire finalement uniquement politique de parti, gauche-droite, mais une affaire d'équilibre dans un couple et que chaque individu doit trouver. C'est très étrange, cette manière de distribuer les rôles dans ce couple.
Alors, la première chose que je soulignerais, c'est le fait qu'il s'agit d'une représentation, c'est-à-dire... Il y a besoin de mettre en scène le couple hétérosexuel et de le faire de manière un peu ostentatoire. Il faut en rajouter. Autrement dit, ça ne va pas sans dire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de répartition des rôles, mais qui est complexe. Parce que, en même temps, même si effectivement, comme vous le dites à juste titre, il y a un partage qui fait que aux hommes la droite, aux femmes la gauche, un peu comme aux États-Unis au moment du déclenchement de la guerre en Irak, on avait pu dire, c'était un intellectuel néoconservateur qu'il suggérait que les Américains sont de Mars et les Européens sont de Vénus. Autrement dit, la virilité pour l'Amérique, la féminité pour l'Europe, le caractère guerrier pour l'Amérique, le caractère pacifique pour l'Europe, eh bien, effectivement, on peut considérer que se rejoue quelque chose de cet ordre dans le couple présidentiel. En même temps, il est intéressant de voir que on n'est pas dans un partage du cœur. Il ne s'agit pas d'abandonner le cœur à la féminité. Il ne s'agit pas d'abandonner le cœur à la gauche. On sait que c'est un thème important depuis les affrontements entre François Mitterrand et Valérie Giscard d'Estaing. La question de savoir si le cœur est à gauche, si la gauche a le monopole du cœur, il me semble qu'au contraire, on a vu une démarche très volontariste de la part de Nicolas Sarkozy pour revendiquer le cœur pour la droite. Tous ces discours sur l'émotion, tous ces discours sur la passion, sur le désir, qui ont été tenus, par exemple, devant les jeunes au Zénith avant son élection. Mais aussi l'insistance, depuis la lettre de Guy Môquet jusqu'aux otages divers libérés par l'entremise du président, eh bien, à chaque fois, on a eu une insistance sur l'émotion. Autrement dit, il s'agit de ne pas abandonner ce terrain traditionnellement féminin, traditionnellement de gauche, pourrait-on penser, eh bien, de ne pas l'abandonner. Donc je crois que d'un côté, il y a cette répartition des rôles masculin-féminin, mais d'un autre côté, il ne faudrait pas pour autant croire que c'est abandonner le cœur à la gauche. Bien au contraire, il me semble qu'il y a une offensive politique pour reprendre le cœur à la gauche, et tout précisément à un moment où le cœur à gauche, eh bien, il se fait entendre en partie, et d'ailleurs pas seulement à gauche, à propos des expulsions, des sans-papiers, c'est-à-dire la question de la compassion, elle est posée de manière forte, et c'est précisément en réaction contre ce cœur de gauche que nous est proposé aujourd'hui un cœur de droite par Nicolas Sarkozy.
Alors, puisque vous avez rebondi et pris en exemple les États-Unis avec cette guerre en Irak, je vous invite à un peu nous dire comment vous voyez, vous, cette élection aux États-Unis, la campagne électorale, par rapport à ces notions d'étalon, de devenir minoritaire, puisqu'on a eu un duel Barack Obama-Hillary Clinton Ensuite, nous avons un duel Barack Obama et Mencken, et Mencken qui a choisi une colistière, Barack Obama qui lui a plutôt choisi un colistier. Donc voilà, on a le sentiment que là se jouent des troubles au niveau des talons, des questions de prise en compte des minorités. Comment vous voyez ces jeux, ces interconnexions? Un peu, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en ce moment?
Alors, je trouve qu'effectivement, on est à un moment très intéressant, mais ce n'est pas très original de le dire, je crois que tout le monde le sait bien, très intéressant et très important. Ce qu'on a beaucoup dit, à juste titre, c'est que la primaire démocrate posait une alternative remarquable, soit une femme, soit un noir. Au passage, ça voulait dire soit une femme blanche, soit un homme noir. Et on a souligné combien, et encore une fois à juste titre, combien cela rappelait des tensions qui ont pu exister après la guerre de sécession aux États-Unis, au moment où se posait la question de la préséance, c'est-à-dire donner le vote aux Noirs avant de le donner aux femmes. Puisque c'est donc après la guerre de sécession que les Noirs obtiennent le droit de vote, tandis que les femmes devront attendre 1920. Donc, à certains égards, on a des catégories fixes, des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, et ces alternatives minoritaires sont posées un peu comme des évidences. En même temps, on l'a un peu moins souligné, mais ça me paraît tout aussi important, ces identités politiques, elles sont plus complexes que cette catégorisation simple ne le laisserait penser. J'ai essayé d'écrire sur ces questions en posant par exemple une question: est-ce que Barack Obama est un homme? Cette question, qui se veut un peu provocante, reposait sur le fait que c'est précisément la question de la masculinité, de la virilité de Barack Obama qui a été posée pendant les primaires démocrates. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Hillary Clinton, en gros, pendant en particulier la primaire de Pennsylvanie qui a été décisive pour le bras de fer qui était engagé entre les deux, Hillary Clinton se montrait plus viril en quelque sorte que Barack Obama. Toutes sortes de moqueries à l'encontre de Barack Obama qui n'auraient pas été très viril. Par exemple, on le voyait bien dans sa manière de jouer au bowling. Par exemple, on le voyait bien dans sa manière de manger, de boire. En fait, on nous a expliqué qu'il faisait partie de ces élites un peu efféminées, par contraste avec des classes populaires plus viriles que, paradoxalement, Hillary Clinton pouvait incarner. Autrement dit, on s'apercevait qu'il n'y avait pas une évidence selon laquelle le féminin, c'est les femmes, et le masculin, c'est les hommes. Donc ces catégories apparemment simples, d'un côté une femme, de l'autre un homme, était troublée. Elle devenait non plus des catégories biologiques, empiriques, simples, mais des identités politiques.
C'est comme une tentative d'OPA de la part d'Hillary Clinton, voilà, de prendre l'homme, devenant du coup l'homme blanc.
Voilà. Mais on voit bien que ça se rejoue aujourd'hui, parce qu'il ne s'agirait pas simplement d'attribuer cela à Hillary Clinton. Il y a, me semble-t-il, un élément structural dans cette affaire. Sarah Palin a joué d'un côté la candidate à la vice-présidence fait partie du ticket avec John McCain pour les Républicains. Sarah Palin, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, elle incarne de manière explosive la féminité, y compris avec toutes sortes de fantasmes pornographiques attachés à sa personne ou à son image. Mais d'un autre côté, eh bien, c'est un vrai mec. Autrement dit, on nous explique qu'elle, elle sait chasser des gros animaux avec des gros fusils. Et elle a toutes sortes d'activités qui sont identifiées à la masculinité et qui seraient inconcevables pour quelqu'un d'aussi policé, mais donc potentiellement d'aussi efféminé que Barack Obama. Donc cette opposition structurale, elle ne doit pas être réduite aux personnes de Hillary Clinton d'un côté, de Barack Obama de l'autre, elle peut se rejouer dans des registres différents. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que on ne peut pas dissocier les catégories de genre, les catégories de race et les catégories de classe. Pourquoi ? Parce que ce que nous disait déjà implicitement et parfois presque explicitement Hillary Clinton, c'était « moi, je suis plus proche des classes populaires parce que je suis plus viril ». Autrement dit, la question de classe et la question de genre se superposaient. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Ou qu'est-ce qu'elle disait ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Eh bien, elle montrait que, elle, on pouvait s'identifier à elle. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas s'identifier avec Barack Obama. Et pourquoi ? Eh bien, évidemment, parce qu'il est noir. Parce que quand on disait « les classes populaires hésitent à voter pour Barack Obama », évidemment, on voulait dire « les classes populaires blanches ». Il va de soi, aujourd'hui, que les classes populaires noires vont voter massivement pour Barack Obama, c'est-à-dire non seulement en pourcentage, mais aussi en chiffre absolu, c'est-à-dire que beaucoup de Noirs qui ne votent jamais vont aller voter dans la prochaine élection. Autrement dit, quand on nous parlait de la question de la proximité avec les classes populaires et que ça aurait été lié à des questions de genre, avec le paradoxe d'une Hillary Clinton plus virile que Barack Obama, eh bien on nous parlait des classes populaires blanches et on nous parlait ainsi de manière codée en quelque sorte, mais en combinant classe, race et genre. Et je crois que c'est encore ce qui s'est joué avec la nomination de Sarah Palin. Qu'est-ce que la nomination de Sarah Palin nous disait ? C'était l'affichage du fait que c'est quelqu'un de normal. Elle n'est pas très éduquée. Elle peut être un peu ridicule, elle peut ignorer des choses, elle peut... Mais c'est quelqu'un de normal. Elle est comme nous. Donc, c'est une politique de l'identification. Votez pour quelqu'un qui est comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne votez pas pour quelqu'un qui n'est pas comme vous. Et quelqu'un qui n'est pas comme vous, et là, ça n'est plus le même usage de la majorité et de la minorité que chez Gilles Deleuze tout à l'heure, mais dans un pays où la majorité est blanche, eh bien, voter pour quelqu'un comme vous, eh bien, ça veut dire voter non pas sur les enjeux, non pas sur la politique économique, non pas sur l'Irak, non pas sur l'Afghanistan, non pas sur aucun de ces grands enjeux, mais voter simplement sur le fait de vous reconnaître davantage dans telle personne ou dans telle autre. Et très clairement, quand on voyait que ça voulait dire voter pour McCain plutôt que pour Barack Obama, c'est bien qu'il ne s'agissait pas simplement de classe, puisque après tout, John McCain est marié à une héritière d'une fortune considérable de la bière. Alors que Barack Obama, eh bien, l'argent qu'il a, il l'a gagné, de même pour sa femme. Donc, clairement, l'identification de classe à laquelle on invite est aussi une identification de race. Simplement, il n'y a pas besoin de la dire en tant que telle. On n'a pas besoin de parler de race pour parler de race.
Mais si, à vous entendre, j'ai l'impression que si, il est fort possible que Barack Obama soit élu, est-ce que ça voudrait dire que ce serait une catégorie de la population aux États-Unis qui se retrouverait représentée, qui avant n'avait pas été représentée, et que ce serait uniquement cela de nouveau, finalement, avec Barack Obama, puisque apparemment la question de la race n'a pas été prononcée, ou elle n'est pas prononcée comme telle? Ou est-ce que vraiment on assiste à des changements au niveau des mentalités, où ça, il y a un mouvement qui s'opère? Est-ce que les choses sont bousculées un peu?
Je crois qu'il y a un changement au niveau des mentalités, c'est-à-dire qu'il aurait été impensable, encore récemment, d'avoir un candidat noir représentant un des deux grands partis. En même temps, je voudrais plutôt souligner, ce qui n'est pas incompatible, mais plutôt souligner le fait que ce n'est pas simplement des évolutions des mentalités. Ça dépend non pas simplement de registres culturels disponibles, mais aussi de langage politique disponible. Il me semble que la bataille politique, c'est, de même que tout à l'heure, dans l'archive de Gilles Deleuze, il s'agissait de dire non pas comment est la société, mais quelle est la vision de la société qui est proposée lorsqu'on est de gauche. Il me semble que de la même manière s'affrontent aujourd'hui aux États-Unis dans la campagne présidentielle deux visions politiques. D'un côté, on dit vous pouvez vous identifier à nous. De l'autre, on dit la question n'est pas d'identification, la question c'est celle des grands débats, des grands enjeux, des grands issues. En 1992, lorsque Bill Clinton, un peu contre toute attente, avait réussi à l'emporter contre le président sortant Bush père, c'était autour d'un slogan qui servait de devise en quelque sorte à sa campagne, c'était « It's the economy, stupid ». C'est l'économie, espèce d'imbécile. Autrement dit, la campagne ne se jouera pas sur autre chose, elle se jouera sur l'économie. Eh bien ça, c'est un pari, une vision politique. Alors, que disent les Républicains ? Et bien avant la crise financière actuelle, ils disaient « It's the culture, stupid ». C'est la culture, c'est-à-dire, au fond, on va se battre sur des valeurs culturelles. C'est là-dessus qu'on va pouvoir obtenir l'identification des gens. Donc il me semble que ce sont deux registres. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on entend par économie, qu'est-ce qu'on entend par culture ? Je le dis là très rapidement pour récapituler cette opposition. Mais je crois que ce n'est pas simplement que la culture évolue. C'est qu'en fait, les langages politiques pour rendre compte de la société dans laquelle on est, eh bien, aujourd'hui, on voit qu'il y a une alternative très claire qui est proposée aux États-Unis. Cela souligne par contraste combien ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Il n'y a pas deux langages politiques concurrents qui s'affronteraient dans les mêmes termes. Donc je crois que si Barack Obama est élu, ça ne veut pas dire au fond les gens sont moins racistes qu'il y a 20 ans. Bien sûr, ça veut sans doute dire cela. Mais surtout, ça veut dire un langage qui dit au fond la question de savoir si vous vous reconnaissez dans un type qui est noir n'est pas la question la plus importante politiquement pour vous, eh bien ça veut dire que c'est ce langage politique-là qui l'aura emporté. Donc je crois qu'on a intérêt à penser non pas seulement des évolutions culturelles, mais des alternatives politiques. La politique, eh bien, c'est l'affrontement entre des visions du monde, entre des langages pour rendre compte du monde. Et je crois que ce n'est pas simplement une évolution culturelle.
Alors, Éric Fassin, il nous reste quelques minutes pour terminer cet entretien. Donc, nous n'aurons pas le temps d'aborder les deux points qui restent. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de choisir entre les deux points, Edwige ou la question de l'annulation du mariage, là où vous auriez souhaité faire un commentaire. Je vous laisse le choix.
Bah écoutez, je parlerai peut-être de cette histoire de mariage, même si, bien entendu, le fichier Edwige m'importe également beaucoup. Et je, comme beaucoup d'autres, j'ai essayé de m'engager contre cette politique. Mais je prendrai pour cette fois la question du mariage, de la virginité. Et j'en dirai simplement quelques mots. Il me semble que les questions de mariage et de filiation sont devenues les lieux mêmes des batailles politiques. On le voit, et plus généralement, les questions sexuelles sont devenues le lieu même de la politique. J'avais été évidemment sensible à cette question lors des débats sur le PACS, l'homoparentalité, le mariage homosexuel. On voyait bien que tout cela posait la question de la nation. Dans quel pays vivons-nous ? Eh bien, c'était ça, au fond, le débat autour de l'ordre symbolique. On l'a vu lorsque il y a eu la première tentative de mariage pour un couple de même sexe en France, à Bègles. On l'a vu de nouveau un an plus tard, lorsque on a eu une tentative de mariage trans qui m'avait beaucoup intéressé, pour reprendre un des thèmes que nous avons déjà évoqué, lorsque deux femmes trans ont voulu se marier, mais qu'il ne s'agissait pas de deux femmes aux yeux de l'État, mais seulement de deux femmes de leur point de vue. Et l'État avait néanmoins refusé leur mariage, alors que selon les catégories de l'État civil, il aurait dû être possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mariage est devenu aujourd'hui le lieu même du contrôle de l'ordre social et en particulier de l'ordre national. Alors c'est vrai sur les questions sexuelles, mais c'est vrai aussi sur tout ce qui touche à l'immigration, Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux très importants avec le contrôle, la loi sur le contrôle de la validité des mariages qui a été votée en 2006, qui vise à jeter un soupçon a priori sur tous les mariages mixtes, c'est-à-dire sur tous les mariages binationaux. On le voit sur toutes ces questions. Par exemple, on en a le symptôme en quelque sorte avec les amoureux au banc public, association qui essaie de porter cette cause dans l'espace public. Mais on le voit de manière exemplaire dans cette histoire d'annulation de mariage pour cause de virginité. Parce que on voit ici que c'est à la fois la question de la sexualité et la question des étrangers. Autrement dit, ça fait un pont en quelque sorte entre les histoires auxquelles je m'étais davantage intéressé avec le PACS et des histoires sur lesquelles je travaille plus aujourd'hui autour de la racialisation des étrangers par les questions sexuelles. Donc je ne vais pas revenir sur le détail de cette affaire, mais ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, les questions sexuelles sont devenues des questions qui tranchent, qui tracent des frontières. On le voit bien aussi dans le refus de la nationalité pour une femme qui porte la burqa. On voit bien que les questions sexuelles, aujourd'hui en France, elles servent à tracer des frontières. Autrement dit, elles font le pont entre les débats qu'on a eus il y a quelques années sur le PACS, l'homoparentalité, etc., c'est-à-dire sur l'ordre sexuel, et les questions de xénophobie, les questions d'immigration. Autrement dit, la définition de la nation, elle s'est jouée dans ce double registre, celui de l'ordre symbolique et celui de l'ordre national, donc de l'identité sexuelle et de l'identité nationale. Donc je crois qu'il est intéressant d'essayer de réfléchir à l'articulation entre ces questions, au lieu de croire qu'elles se situent sur des planètes différentes, parce que les uns s'intéressent davantage aux questions sexuelles et les autres aux questions que je qualifierais de raciales. Eh bien, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est d'essayer de penser l'articulation entre ces deux registres, non pas simplement pour des raisons théoriques, mais c'est parce que c'est là que se jouent aujourd'hui beaucoup des questions politiques et des questions minoritaires en particulier.
Merci Éric Fassin pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes sociologue américaniste et que vous enseignez à l'École normale supérieure. Est-ce que vous avez une publication à venir ou une actualité particulière ?
Oui, j'ai deux livres collectifs qui sont parus au printemps, l'un au PUF, un petit livre avec Kees van Dijk, juriste néerlandais, comparant la situation dans 9 pays européens en matière de droit sur les questions de conjugalité et d'union de même sexe, etc. Et d'autre part, un livre collectif co-dirigé avec des collègues sur mariage et homosexualité dans le monde, là non pas d'un point de vue juridique, mais plutôt d'un point de vue sociologique et anthropologique. Donc ce sont deux de mes travaux récents.
C'était l'émission À bout de souffle, une émission sur la pensée contemporaine avec Éric Fassin, sociologue, américaniste à l'École normale supérieure. L'émission À bout de souffle est terminée, mais rassurez-vous, en podcast, sur le web, audioblog. arteradio.com/a-bout-2-souffle